Nous sommes de tout cœur reconnaissants à Dieu pour cette magnifique occasion d'être ici, d'entendre sa parole et d'être fortifié dans notre foi. J'ai des salutations cordiales à transmettre de la part des frères et sœurs de l'Autriche et de Suisse. Nous avons eu des journées et des réunions magnifiques et l'on constate toujours à quel point les personnes à qui la parole de Dieu a été révélée par l'Esprit de Dieu sont reconnaissantes. Ils trouvent le repos en Dieu. Et il est écrit, il y a un repos pour le peuple de Dieu présent, un repos présent. D'un autre côté, on voit tant d'agitation parmi les croyants. Les gens qui répandent l'inquiétude n'ont pas encore trouvé le repos en Dieu eux-mêmes. Et l'Écriture sainte dit, dans le récit de la création, que Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres. Et dans l'Épître aux Hébreux, que nous aussi, nous nous sommes reposés de toutes nos œuvres. Nous ne devons plus faire ceci ni cela, mais laisser Dieu faire tout ce qu'il a décidé. Si notre béatitude dépendait de ce que toi et moi avons à faire ou pouvons faire, aucun de nous sera au ciel. Mais si nous pouvons laisser Dieu agir, alors nous avons une très grande chance d'y être. Et alors, ce n'est pas nous-mêmes que nous verrons ou remercierons, mais lui qui a tout fait et tout accompli en tout. Pour nous, qui attendons que Dieu agisse, le moment est le plus difficile. Le temps est le plus difficile. Tous les autres peuvent faire de la vapeur et présenter ceci ou cela, faire ceci et cela, mais tout cela prendra fin un jour. Les hommes seront à court d'idées. Et ensuite, que se passera-t-il alors? Heureux celui qui a trouvé réellement le repos en Dieu, qui compte vraiment sur la grâce de Dieu du début à la fin. Avant que nous ayons la réflexion sur la parole, j'ai décidé de ne pas prêcher avec puissance. La parole de Dieu est si puissante en elle-même que nous n'avons plus besoin de donner de l'importance corporelle à ses paroles. La parole de Dieu est plus tranchante que toute épée à double tranchant. Elle est comme un marteau qui brise le roc. Et cela veut dire quelque chose. Ensuite, cet après-midi, j'ai reçu un appel tout à fait merveilleux. Une sœur dont le fils a eu des crises d'épilepsie presque toute sa vie. Il est venu, peut-être que c'est entre 3 ou 4 ans ici, elle l'a amené ici. Et il a consacré sa vie au Seigneur et s'est fait baptiser. Et cette sœur n'est plus venue ici depuis le temps de l'épreuve. Mais aujourd'hui, elle ne pouvait plus le supporter. Elle a appelé et a dit, « Frère Franck, que ce soit pour toi et pour vous, un renforcement de la foi. Nous reviendrons, moi et nous. Nous avons traversé beaucoup de choses et nous avons couru après telle ou telle chose. Mais je voudrais encore te dire une chose. Lorsque vous avez prié pour mon fils, Dieu a fait le miracle de la guérison. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus jamais eu de crise d'épilepsie. Dieu est fidèle. Non pas celui qui prie, mais celui qui croit. Car c'est ce que disent les Saintes Écritures. Ceux qui croient, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous pouvons tous prier, mais croyons pendant que nous prions, afin que Dieu puisse confirmer sa parole. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le livre des Sceaux, et cela avec les dernières pages, c'est-à-dire avec le dernier sceau, un certain nombre de pages. Je l'ai lu il y a quelques jours, et certaines choses vont nous frapper ici. Cela va devenir grand et important pour nous, et nous le faisons toujours en relation avec les paroles de Dieu. Il n'y a pas de proclamation qui vienne de Dieu et qui n'introduise pas dans la parole. Tout message divin vient de la parole et conduit à nouveau dans la parole. Un examen doit être possible et il n'est possible que si l'on peut appliquer le critère de la parole. Comme je l'ai dit, nous allons lire quelques citations. Avant de le faire, je voudrais lire Lévitique 26, verset 42. Lévitique 26, verset 42. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Pour l'instant seulement jusqu'ici. Dieu a conclu une alliance avec Abraham, une alliance avec Isaac, une alliance avec Jacob, et ensuite, sous Moïse, une alliance avec tout Israël. Et lorsque, en ces jours, nous sommes invités à nous présenter devant le Seigneur en tant que peuple de son alliance, en tant que personne avec lesquelles il a fait l'alliance, il a fait alliance, nous devons garder à l'esprit les paroles de l'alliance et croire ce qu'il a dit. Nous savons que l'obéissance est récompensée par Dieu et que la désobéissance est punie. Et lorsque nous lirons tout à l'heure le livre des Sceaux et aussi Deutéronome 29, nous devrions peut-être lire ici du livre des Sceaux, la page 327. J'ai failli dire le verset, la page 327. Il est écrit ici, il dit à Abraham que sa semence restera 400 ans dans un pays étranger et qu'après cela, ils en sortiront à main forte. Un petit saut. Dieu n'oublie rien, il n'oublie ni ses malédictions, ni ses bénédictions. Il restera fidèle à ses promesses. C'est ici que réside la raison de leur absence. J'aimerais que vous lisiez maintenant avec moi le chapitre 29 de Deutéronome. Peut-être aurais-je dû commencer un peu plus tôt. Je le fais maintenant. Je veux que vous lisiez avec moi pendant une minute et que vous soyez attentif. Peut-être ne l'avez-vous pas encore remarqué lors de la représentation de la tribu. Lisez maintenant Apocalypse 7 avec moi et soyez attentifs aux tribus. Dans Apocalypse 7, Dan et Éphraïm sont absents. Ils ne sont pas énumérés parmi les autres tribus, l'avez-vous remarqué? Dan et Éphraïm ne sont pas là. En revanche, Joseph et Lévi ont été insérés à leur place. Pourquoi? Dieu se souvient de toutes les promesses de sa parole. Nous allons maintenant lire cette partie de Deutéronome 29. Verset 16, Deutéronome 29, verset 16. Donc les versets qui ont été indiqués, et plus précisément du verset 16. Vous savez vous-même comment nous avons habité dans le pays d'Égypte, comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Verset 17, et vous avez vu leurs abominations et leurs idoles de bois et de pierre, d'argent et d'or qui sont chez eux. Qu'il n'y ait parmi vous, verset 18, ni homme ni femme, ni famille ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui du Seigneur, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nation. Ça, c'est le point 1. Voici le point 2, la suite du verset 18, qu'il ne se trouve parmi vous, qu'il ne se trouve pas parmi vous, pardon, de racines qui produisent de l'amertume, ou comme ici, le nom de la plante est donné, de la cigue et de l'absinthe comme fruit. Aux traductions du poison et de la mauvaise herbe. Le verset 19, que personne en entendant les paroles de ce traité de malédiction ne se glorifie ensuite dans son cœur en pensant bien, les choses iront malgré tout bien pour moi, même si je marche dans l'endurcissement de mon cœur, cela aurait pour conséquence que tout serait emporté, la terre irriguée et la terre sèche. Arrêtons-nous d'abord ici. Deux choses sont dites ici. La première est que le peuple d'Israël ne sert pas d'autres dieux. et la seconde, qui ne doivent pas laisser s'installer en eux la racine de l'amertume qui produit l'absinthe. La racine de l'amertume. Les deux choses sont mises sur le même plan. Puis vient l'avertissement que personne ne pense en lui-même lorsqu'il entend ces paroles de l'Alliance. Tout ira bien pour moi, je suis béni et je peux me glorifier. Se glorifier de ton bonheur et du mien et se déclarer bienheureux ne nous aidera pas, toi et moi. Combien de personnes et frères et sœurs, frère Branham l'explique ici. Il y a des gens qui se bénissent eux-mêmes. Et je ne voudrais pas que quelqu'un ait l'impression qu'il s'agit ici d'une grande communauté religieuse seule. Non, nous avons tous vu des gens se bénir eux-mêmes puis s'en aller. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup marchent dans les mêmes traces et pensent qu'ils sont bénis. Ils parlent de bonheur et ne réalisent pas qu'ils ont laissé ces deux conditions inaperçues. D'un côté, nous pourrions dire que nous croyons en un seul Dieu et donc que nous ne croyons pas en des dieux et peut-être regarder les autres de haut en pensant que nous sommes en sécurité car nous croyons en ce seul vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si c'est le cas, remercier soit le Seigneur, mais cela ne suffit pas. Ensuite, nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas de racine d'amertume. Et nous avons aussi observé et lu les conséquences que cela peut avoir. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, il est écrit au verset 14, Hébreux chapitre 12, du verset 14, « Recherchez avec zèle la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Verset 15, « Et veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, ne fasse du mal et que beaucoup ne soient souillés par elle. » Il ne suffit pas de se glorifier et de dire « Nous avons le message » ou « La vérité » ou « Nous avons la parole de Dieu ». Le revers de la médaille consiste ici en deux conditions. Et si l'on compare ces deux conditions aux nombreuses promesses et ordonnances, il y a presque une disproportion. Mais ces deux conditions doivent être remplies. Si toutes les autres paroles de Dieu doivent être aussi accomplies. Et si ces deux conditions ne sont pas remplies, alors nous pouvons nous bénir nous-mêmes, nous pouvons nous féliciter nous-mêmes, nous pouvons penser que nous sommes dans le vrai et que nous sommes dans le juste. Qu'est-ce que cela peut bien faire à Dieu? Dieu n'est lié qu'à sa parole. Bien-aimés, ce sont des paroles très sérieuses. Dieu avait conclu une alliance avec son peuple. Et il a dit, où serait un peuple qui aurait entendu la voix de Dieu, qui aurait vu son feu, à qui il aurait parlé et à qui il se serait révélé. Deutéronome 4, verset 33. Ici, il y avait là le peuple d'Israël et Dieu avait conclu l'alliance avec eux ou avec lui, puis avait donné ses conditions. La tribu de Dan, nous l'avons lu, et Éphraïm ont pratiqué l'idolâtrie et ils ont été rayés et n'apparaissent plus dans l'Apocalypse au 7e chapitre parce qu'ils ont transgressé la parole de Dieu. Dans ce cas, il ne sert à rien que quelqu'un de la tribu de Dan ou d'Éphraïm se glorifie et se bénisse et se sentent bienheureux et disent certaines choses. Mais si ces conditions ne sont pas remplies, alors on est automatiquement éliminé. On a alors perdu le droit d'avoir part à ce que Dieu a promis. Transposé maintenant à notre époque ou à notre temps, cela signifie effectivement que nous ne nous contentons pas maintenant d'écouter les paroles de l'Alliance et de dire « Oh, Dieu nous a puissamment parlé », mais que nous veillons scrupuleusement à remplir ces conditions. Imaginez que nous ayons tout ce qu'il faut dans l'enseignement, tout ce qu'il faut dans la connaissance de Genèse à Apocalypse 22 et que nous n'enseignions pas selon la méthode traditionnelle, le seul vrai Dieu qui s'est révélé à nous en Christ, mais que nous proclamions, comme c'est l'usage partout, la doctrine qui est répandue. Que se passe-t-il alors si on le fait? Nous sommes alors automatiquement éliminés, car tout homme qui vient à Dieu est enseigné par Dieu et inséré dans son plan de salut. Bien, si nous avons accompli la première partie et que nous l'avons rempli par la grâce de Dieu et que nous pouvons dire et chanter « Seigneur, tu t'es révélé à moi », que nous reconnaissons clairement par la parole et l'esprit, par toutes les prédications que Dieu s'est révélé à nous en Christ. Et nous nous glorifions heureux et bienheureux en disant « Seigneur, cela nous est précieux. Nous ne voudrions plus jamais le donner. » Mais alors, ne pas être attentif et tolérer qu'une racine d'amertume pousse. Elle peut alors être comme l'absinthe et remplir tout ce qui précède d'un tel arrière-goût amer qu'il n'est plus comestible, consommable. La meilleure nourriture, le repas le mieux préparé ne nous sert plus à rien si on y ajoute de l'amertume qui produit de l'absinthe et toutes sortes de poisons. C'est un point auquel nous devons faire attention. Nous pouvons tous maîtriser très rapidement le premier point. Dieu nous a fait la grâce de le faire et cela ne nécessite aucun effort de notre part car nous croyons comme le disent les Écritures. Mais la deuxième partie exige bien sûr un peu plus. Un peu plus. Si autrefois, deux tribus que Dieu avait appelées ont dû être éliminées parce qu'elles ne remplissaient pas les conditions, et si plus tard, en Apocalypse 7, lorsqu'on fait le compte à la fin et qu'on énumère tous ceux à qui Dieu a fait grâce, et voici qu'ils ne sont pas parmi eux. Au début, lors de l'appel à sortir, ils étaient là. À la fin, lorsque la visitation divine a lieu, ils n'en font plus partie. Et ici, Frère Branham l'explique très clairement. À quoi cela sert-il pour moi et pour toi, et pour des milliers d'autres, s'ils se déclarent heureux et bénis? Et j'ai apporté ici la traduction du Brockhaus. Je voudrais en faire la lecture. L'écriture est un peu conservée petite. Voici ce qui est écrit. Celui dont le cœur se détourne aujourd'hui de Yahvé, notre Dieu, pour aller servir des dieux de ces nations, de peur qu'il n'y ait parmi vous une racine qui porte du poison et de l'arrogance, même si je marche dans l'endurcissement de mon cœur. Remarquez-vous de quoi il s'agit? On peut dire, je suis en paix. J'ai la paix. Et si l'on considère ensuite les voix d'un homme qui dit de sa bouche, j'ai la paix, et que sur toutes ces voies, il n'y a que la discorde, la division, la querelle. À quoi sert-il? À quoi sert-il que quelqu'un dise en lui-même, je suis béni, et que sur toutes ces voies, il n'y a que de la discorde et de la division? Et si l'on dit, il m'est arrivé du bien, j'ai reçu le salut, et qu'il n'y a que du mal et de la discorde sur toutes ces routes et ces voies, nous avons ici affaire à des paroles très graves. Qui marche dans l'endurcissement de son cœur. Ici, c'est le dictionnaire Brockhaus de la Bible. Pourquoi est-il encore écrit dans l'Épître aux Hébreux? Hébreux 3, verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La foi en un seul Dieu qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ doit avoir pour conséquence que nos cœurs soient renouvelés, nés de nouveau, et qu'aucune racine d'amertume ne puisse pousser, mais que le fruit paisible de la justice puisse croître et s'épanouir en nous, selon Jacques 3. Ici, le Seigneur, Dieu, a continué à parler. Mais alors, la colère de Yahvé et sa jalousie fumeront contre un tel homme, et toute la malédiction écrite dans ce livre reposera sur lui, et Yahvé effacera son nom de dessous les cieux. Ça, c'était les versets 19 et 20 de Deutéronome 29. Versets 19 et 20, vous le savez et vous pouvez le lire vous-même dans le livre Les Sept Sceaux. Ici, peut-être déjà quelques pages avant, peut-être déjà à partir de la page 324. Et nous remarquons de quoi il s'agit. Il s'agit des élus. Et soulignons-le très clairement ce soir. L'élection est faite par Dieu sans que nous y soyons pour quelque chose. Toute personne qui peut croire de tout cœur qu'elle est élue se laissera placer dans les limites de la parole de Dieu. Ici, frère Branham a parlé de deux lignes, d'une part des 144 000 des 12 tribus d'Israël et d'autre part des élus de l'Église du Nouveau Testament. Avez-vous remarqué en lisant le Nouveau Testament que ni Pierre, ni Jacques, ni Jean n'ont utilisé une seule fois le mot « épouse » dans toutes leurs épîtres. Pas une seule fois le terme « épouse » n'a été mentionné par Pierre ou par Paul, Jacques ou Jean. Il s'agissait toujours de l'Église. Mais le terme « élection », « prédestination », celui-ci a été mentionné assez souvent. Mais à notre époque, où il s'agit d'appeler l'épouse de l'agneau à sortir, c'est justement ce terme qui a été mis au premier plan. Il se trouve dans la Bible, mais dans Apocalypse. Il est dit, Apocalypse 21, verset 9, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il s'agit donc, à la fin, que l'épouse puisse sortir et apparaître. Si l'on lit tous ces termes dans les épîtres de Paul et dans celles de Jacques et de Pierre ou de Jean, c'est qu'il signifiait la même chose. Ici, à la page 324, il est écrit, citation, notez, que les 144 000 juifs ont été élus par Dieu et ne s'inclineront pas devant la bête, ni devant les dénominations, ni devant quoi que ce soit d'autres. Oh, quel merveilleux témoignage! Les élus de Dieu ne s'inclinent que devant Dieu et la parole de Dieu. Ils ont en eux un refus contre tout ce qui n'est pas de Dieu. On a beau le présenter comme chrétien, s'il n'est pas conforme aux paroles de Dieu, ils ne l'accepteront pas. Alors il est écrit plus loin, citation, c'est la même chose pour l'épouse des païens. Elles sont un groupe d'élus. Vous ne pouvez pas la persuader de faire de telles choses car elle ne le croira pas. Elle ne fera que accepter la parole. Et lorsque la lumière l'a frappée, c'est par elle que cela s'est produit. Quand elle verra la confirmation et les preuves, elle regardera à la parole de la Bible et verra que tout concorde. Que tout concorde. J'ai souligné cette phrase. Les personnes qui sont choisies, élues par Dieu et qui sont frappés par la lumière de Dieu sous la prédication de la parole ne méprisent pas la parole pour ensuite se lancer dans une fantaisie, mais comme il est écrit ici, elles regardent dans la parole de la Bible et reconnaissent que tout concorde. Ça, c'est ton chemin et le mien avec Dieu. Si nous revendiquons d'avoir été choisis, d'avoir été élus par lui, nous ne marchons pas ici aujourd'hui et là demain. Nous n'avons pas affaire à tel ou tel vent qui souffle, mais seulement au grondement, au bruit impétueux qui descend du ciel sur celle qui attend, sur celle qui prie, sur celle qui croit. Sur ce troupeau qui attend, qui prie et qui croit. C'était aussi un vent, mais ce n'était pas un vent d'un quelconque enseignement. C'était un rugissement venu du ciel pour remplir les vases vides qui avaient reçu et accepté la parole de Dieu. Et nous croyons qu'il en sera de même en ces jours. Ce ne sera peut-être qu'à la fin, mais cela n'a aucune importance. On pourra alors dire, comme on le dit dans le langage populaire, tout est bien qui finit bien. C'est à la fin que doit arriver le plus grand et le meilleur. Quand la gloire de Dieu a-t-elle rempli le temple? Non pas lorsqu'il était à moitié terminé, mais lorsqu'il était entièrement terminé. Et on peut le lire dans l'Exode au chapitre 40 où il est question du verset 34. Exode 40, verset 34. Lorsque Moïse eut ainsi achevé tout l'ouvrage, la nuée couvrit la tente de révélation et la gloire du Seigneur remplit le tabernacle. Verset 35, de sorte que Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de révélation parce que la nuée s'était posée sur elle et que la gloire du Seigneur remplissait le tabernacle. Nous pourrions prendre les deux passages parallèles qui s'y rattachent encore, à savoir que l'un ou l'autre, au temps de Salomon, lorsqu'il construisit le temple et que tout était en place et à sa place, la gloire, la même gloire de Dieu descendit. Dieu lui-même a témoigné que l'on avait ici agit selon sa parole et selon sa volonté. Et la même chose doit se produire maintenant. Lorsque le peuple d'Israël est revenu de la captivité à Babylone sous la direction d'Esdras et de Néhémie et de Zorobabel, la gloire de Dieu est redescendue. Et il a été dit, la terre entière a été ébranlée. Qu'est-ce que c'était? Le peuple de Dieu a agi dans la volonté parfaite de Dieu, conformément à la parole de Dieu. Et c'est alors que la gloire de Dieu est descendue. La gloire de Dieu ne vient pas lorsque toi et moi nous entraînons à sauter. Lorsque toi et moi nous entraînons à sauter, à frapper dans nos mains ou à faire du bruit dans la prière, tout cela a sa place. Et bienheureux celui qui n'est pas assis là, mort, mais qui a la vie de Dieu et qui peut suivre lorsque l'Esprit de Dieu agit. Mais au temps de Moïse, au temps de Salomon, au temps de Zorobabel, ce n'est pas parce que des hommes ont agi, et ce n'est pas ce que des hommes ont fait, mais parce qu'ils ont fait la parfaite volonté de Dieu en leur temps, selon ce qui était autrefois dans le plan de Dieu. Ils ont construit avec patience, et 46 ans se sont écoulés, nous le savons tous, avec la construction du dernier temple. Et déjà à l'époque, déjà les gens ont mal compris notre Seigneur lorsqu'il a dit dans Jean 2, verset 19, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Et les gens disaient dans Jean 2, verset 20, « Il y a 46 ans qu'on a construit ce temple et pendant 46 ans, on a construit ce temple et tu veux le rebâtir en 3 jours. » Ils l'ont mal compris. Il parlait du temple du Nouveau Testament. C'était le temple. Il était le temple de Dieu. Il était le temple de Dieu. Il était la révélation de Dieu sous forme humaine. Maintenant, Paul dit ou écrit aux Corinthiens, « Vous êtes le temple de Dieu. » 1 Corinthiens 3, verset 16. En tant qu'Église du Nouveau Testament, nous devons comprendre que Dieu a un plan, que Dieu a un programme. Et si l'appel à sortir et la préparation durerait 40 ans, ben, que cela dure donc aussi longtemps. Une chose est sûre, à 100%, c'est qu'à la fin, Dieu remplira son temple de sa gloire et témoignera que les choses ont été faites selon sa parole et sa volonté parfaite. Tout le reste ne sera alors plus demandé. Certes, cela a été long pour Moïse, long pour Salomon, long pour Zorobabel. Et l'attente est une très mauvaise chose. Mais si l'on sait ce que l'on attend, et si l'on sait que Dieu a fait des promesses, pourquoi devrions-nous mettre notre propre feu, allumer notre propre feu, mettre notre propre feu sur l'autel de Dieu? Cela ne sera pas accepté et agréé par Dieu. Qu'est-il arrivé aux gens des jours de Moïse qui ont pris les encensoirs et qui ont mis du feu étranger sur l'autel? Le feu les a lui-même consumés. Il faut savoir attendre dans le royaume de Dieu et lire le dessein divin et ne rien faire sans avoir été appelé et envoyé à le faire. Vous savez, Qu'Irénée était l'un des hommes de Dieu de l'époque post-apostolique. Il disait, à qui Dieu fait grâce, il montre son plan. Comme un maître d'œuvre montre son plan à ceux qui doivent construire. C'est ce que fait Dieu. Dieu a pris Moïse sur la montagne et lui a montré tout ce qui devait être fait et comment cela devait être fait. Puis, il est descendu de la montagne. Et à la fin, il est écrit, je vais peut-être vous le lire dans Exode, le chapitre 39, il est écrit dans les 2 derniers versets. Exode 39, C'est exactement comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse, que tout le travail avait été exécuté par les Israélites. Exode 39, verset 42. Alléluia! Gloire au Dieu vivant. Non seulement Moïse, mais aussi tous ceux qui participaient à l'œuvre de Dieu, au travail de Dieu à cette époque, ont exécuté le travail exactement comme Dieu l'avait ordonné à Moïse. Lorsque frère Branham a été appelé par le Seigneur, il lui a été dit littéralement, comme deux signes ont été donnés à Moïse, ainsi deux signes te seront donnés. Et s'ils ne croient pas au premier, ils devront croire au second. Qu'est-ce que c'est? Le même Dieu qui a parlé à Moïse, qui avait un plan, qui avait une assemblée dans l'Ancien Testament et un prophète à qui il pouvait parler. Le même Dieu a dû envoyer maintenant à la fin de l'Église du Nouveau Testament un prophète dans cet âge prophétique pour présenter encore une fois le plan clair de Dieu au peuple de Dieu. Et disons-le, Dieu ne change pas. Ses voies et toutes ses actions restent telles qu'elles étaient de toute éternité. Et si autrefois, à l'époque, tous les Israélites impliqués dans le service, dans la tâche, dans l'œuvre, exécutaient tout comme Dieu l'avait ordonné, alors je me pose la question, et je vous la pose ainsi qu'à beaucoup d'autres, qui est maintenant responsable de la confusion de ces jours dans lesquels nous vivons? Des hommes qui n'ont aucune instruction de Dieu, aucun appel, aucun envoi. Chacun fait ce qui bon lui semble. Chacun se bénit lui-même. Chacun se glorifie dans son cœur. Et la parole s'accomplit. Tout se fait selon le bon plaisir de ces gens. Juges 21, 25. Bien sûr, pour que la chose conserve son apparence pieuse, sans laquelle elle ne pourrait pas être présentée à l'homme, il faut se référer au prophète, il faut se référer à un homme de Dieu. La parole que le Seigneur adressa alors aux scribes est valable. Matthieu 23, verset 2. Sur la chair de Moïse se sont assis les scribes et les pharisiens. Et ils n'avaient aucune idée de ce que Moïse avait dit par l'Esprit de Dieu. Je relis encore ce verset. Exode 39, verset 42. Exactement comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse, tout le travail avait été exécuté par les Israélites. Verset 43. Lorsque Moïse eut examiné tout ce qu'ils avaient fait et qu'il se fut assuré qu'il l'avait exécuté exactement selon les instructions du Seigneur, il les remercia en leur souhaitant une bénédiction. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Non pas de se faire un nom, non pas de faire n'importe quoi, mais notre action aujourd'hui doit être à la hauteur de ce que Dieu a fait connaître et révéler aux prophètes. Car Elle doit avoir été exécutée comme Dieu l'a ordonné. Imaginez que Moïse ait fait une inspection. Il a regardé autour de lui. Il est dit ici, si merveilleusement, verset 43, lorsque Moïse inspecta tout ce qu'ils avaient fabriqué. Oh, si William Branham aujourd'hui, ou Paul, qu'il s'agisse d'apôtre ou de prophète, s'il pouvait venir aujourd'hui, et si en tant qu'auditeur silencieux, il s'asseyait ici et là dans les réunions, pays par pays, oh mon Dieu, il s'avancerait et chasserait les gens en disant, vous n'avez pas été envoyé par Dieu et vous n'avez pas été appelé parce que vous n'avez pas parlé en accord avec tous les prophètes et apôtres. Il est dit ici, il visita tout ce qu'ils avaient fabriqué. Le jour viendra. Et c'est encore écrit aujourd'hui dans 1 Corinthiens. Au chapitre 3, peut-être environ au verset 10, que chacun peut bâtir. Mais alors viendra le temps de l'épreuve et l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Et c'est alors que l'on verra si nous avons construit noblement ou si l'on a construit avec du bois, de la paille et du chaume. Vous savez que le feu est très actif quand il y a de la paille, du bois, du chaume, toutes ces choses-là, et un peu de vent en plus, il ne reste plus grand-chose. Mais s'il y a des métaux précieux, de l'or, que peut faire le feu pour l'or? Que peut faire le feu alors? On peut alors dire, chauffe sept fois plus qu'avant, sans problème, sans problème. L'or sortira d'autant plus pur qu'il aura reçu et vécu la mise à l'épreuve dans le feu de l'épreuve. Aujourd'hui, la parole du Seigneur est adressée à tous ceux qui prennent la Bible en main et qui osent encore aller devant afin qu'ils construisent, fabriquent en accord avec les paroles prophétiques et avec tout ce qui a été révélé pour que Dieu puisse y déposer sa bénédiction. Pour que Dieu puisse y déposer sa bénédiction. Je le relis, cela ne me saute aux yeux que maintenant. Ce n'est pas avec cette pensée, Dieu le sait, que je suis venu à la réunion aujourd'hui. Il est dit ici au verset 43, lorsque Moïse eut examiné tout ce qu'ils avaient fabriqué et qu'il se fut assuré qu'il l'avait exécuté exactement selon les prescriptions du Seigneur. Qu'est-ce que c'était? Il n'est pas dit selon les prescriptions de Moïse. Ils savaient tous que Dieu avait parlé à Moïse et que les ordonnances venaient et ne venaient pas de Moïse, mais qu'elles venaient et venaient de Dieu. Et qu'ainsi, un saint respect s'imposait à tous parce que ses ordres venaient de Dieu. Ils savaient que ce n'était pas le message de Moïse, que ce n'était pas la chose ni l'œuvre de Moïse, mais que c'était le message de Dieu par Moïse et l'œuvre de Dieu parmi son peuple. Ils ont tout exécuté exactement selon les instructions du Seigneur. Avant que cela puisse avoir lieu, il faut avoir appris à obéir et savoir à quel genre de travail Dieu a destiné les individus dans son royaume. Je suis parfois étonné, et ce n'est pas une critique, juste une constatation, de voir comment des personnes se retrouvent soudainement avec une tâche à accomplir alors qu'elles auraient eu 20 ans pour parler de leur tâche ou pour en parler à un seul. Tout d'un coup, ils sont là. On ne sait pas d'où ils venaient. Ici, nous avons affaire à Dieu et à sa parole. Et je crois que Dieu, nous avons affaire à Dieu et à ses paroles au pluriel. Et je crois que Dieu a un ordre, car c'est ce qui est écrit dans l'Épître aux Corinthiens. Dieu est un Dieu d'ordre dans toutes les assemblées des saints. 1 Corinthiens 14, 33. Cette parole est encore valable aujourd'hui dans les assemblées de ceux qui ont été rachetés, purifiés et sanctifiés par Dieu, l'ordre divin est en vigueur. Alors seulement, tout peut être fait sous la conduite directe et seulement ainsi, sous la conduite directe du Saint-Esprit, comme le Seigneur l'a ordonné. Mais celui qui pense en lui-même, je suis béni, et qui se donne de la valeur et pense être quelque chose et se donne de l'engrais pour être quelque chose, s'en va et pour le constat et vous le constaterez toujours partout où se trouvent les choses que nous avons lues auparavant, il ne restera rien de bon. Là où il y a de l'arrogance, là où il y a du poison, là où s'élève une telle racine d'amertume, il ne peut rien rester de doux. Ce sont alors des divisions et rien d'autre. J'aimerais souligner et lire encore une fois cette phrase, c'est-à-dire concernant les élus, concernant l'épouse d'entre les païens. Lorsqu'elle voit la confirmation et les preuves, elle regarde à la parole de la Bible et reconnaît que tout concorde, que tout concorde. En effet, à l'époque de Moïse, on commençait seulement à écrire la Bible. Et pourtant, tous ceux qui étaient désignés par Dieu pour une tâche, se sont réunis d'un commun accord et chacun était doué d'une tâche familière pour accomplir tous les travaux de la maison de Dieu. Dieu a placé différents ministères dans l'Église, mais l'Église est un seul corps. Elle ne peut pas être déchirée, divisée. Aujourd'hui, l'un d'eux attire quelques disciples à sa suite. Puis il est fier comme un Oscar, car il n'a plus besoin de travailler, n'est-ce pas? Il y en a qui lui sont désormais attachés. Et ainsi partout, de tous côtés, on sépare, on divise, on déchire. Où est le corps du Seigneur? Où est l'unité, l'union de l'Église du Nouveau Testament? Où sont les frères qui se laissent insérer par Dieu lui-même et qui s'inscrivent dans le programme de Dieu pour ce temps présent? Croyez-moi, même si nous avons dû accepter la première et la plus grande déception, il ne sera pas épargné à beaucoup d'autres de vivre aussi leur propre déception pour être encore plus reconnaissant plus tard comme ils l'étaient auparavant. Nous devons seulement veiller à ce que nos cœurs ne s'endurcissent pas et à ce que rien ne s'élève en nous et qu'une racine d'amertume ne se propage. Dieu a un plan jusqu'à la fin du temps de grâce avec tous les peuples de toutes les nations. Le plan de Dieu est de procéder à la fin de ces jours à un appel à sortir des élus et d'en faire son épouse, l'épouse de l'agneau, afin que nous redevenions un seul cœur et une seule âme et que tout puisse être fait comme le Seigneur, comme Dieu le Seigneur l'a dit par la bouche de ses prophètes et de ses apôtres, et comme il l'a fait résumer de nos jours par le dernier messager. Il n'y a pas d'autre solution telle qu'il a fait proclamer en le résumant de nos jours par le dernier messager. Il n'y a pas d'autre solution. Demain, si Dieu le veut, nous verrons ce qui est encore écrit sur les prochaines pages du livre des Sceaux. Et j'espère que tous ceux qui sont de Dieu ne se laisseront plus mener par le bout du nez avec des slogans pieux, mais comme nous l'avons lu, qu'ils plongeront leur regard seulement dans la parole de Dieu, dans la Bible. Car il est encore écrit, psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Non pas l'interprétation, non pas les interprétations, non pas les nombreuses interprétations, oui, mais la parole révélée par le Saint-Esprit. Cher cœur, si tu fais partie de ceux qui, à la fin du temps de grâce, appartiennent maintenant à l'Église épouse du Seigneur, alors toi aussi, tu te laisseras insérer dans le plan de Dieu. Alors, toute volonté personnelle cessera réellement. Tu attendras alors avec patience que ce soit le Seigneur lui-même qui te donne ta place. Et s'il veut t'utiliser, il te le fera savoir. Il te le fera savoir. Ne nous inquiétons pas de cela. Notre Dieu est à l'œuvre. Il a eu Abraham, il a eu Isaac, il a eu Jacob, il a fait alliance avec eux, il s'est engagé envers eux, il a été fidèle, il a tenu ses promesses et il a béni partout où se trouvaient ceux qui ont accueilli ses paroles, qui ont cru en ses promesses et qui l'ont suivi dans l'obéissance. Il en sera de même en ces jours. Encore une fois, ce n'est pas ce que je voudrais faire ou ce que tu voudrais faire ou ce que d'autres voudraient faire, mais nous devons nous laisser insérer dans ce que Dieu fait lui-même maintenant, dans le plan de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans ce que Dieu laisse se dérouler maintenant comme l'histoire du salut ou dans ce qu'il laisse s'achever. C'est en cela que nous voulons nous laisser insérer. Je n'ai qu'un souhait et plus que cela, je n'ai qu'une prière. Oh Dieu, laisse-moi tout faire seulement selon ta parole, selon tes instructions, et cela sous la directe conduite de ton Saint-Esprit. L'accomplissement, l'achèvement ne se fera pas en ce que chacun seul fasse quelque chose, ni dans la volonté permise de Dieu, mais seulement là, et là où nous nous laissons insérer dans la parfaite volonté de Dieu. N'êtes-vous pas heureux que Dieu ait un reste qui se taise devant lui, qui reçoive ses instructions, qui ne devienne pas nerveux pour faire ceci ou cela rapidement, qui puisse attendre que Dieu fasse quelque chose. À la fin, la gloire de Dieu est descendue. Nous attendons la même chose dans une grande mesure à la fin du temps de grâce que Dieu me donne, ainsi qu'à nous tous d'avoir compris la leçon de ce soir. Il est très important de croire en un seul Dieu véritable et vivant. Et ensuite, il faut veiller à ce qu'aucune racine d'amertume ne surgisse qui serait comme l'absinthe et détruirait tout ce que nous avons reçu et accepté auparavant. Cela ne sert alors plus à rien. Au contraire, il peut arriver que si les gens ne font pas attention, leur état devienne plus tard 7 fois pire qu'il ne l'était auparavant. La parole de Dieu ne fait pas de vaines déclarations, mais elle pense ce qu'elle dit et dit ce qu'elle pense. Ne vous découragez pas et ne soyez pas abattus. Remerciez Dieu de tout votre cœur, car c'est lui qui a laissé frère Branham venir et partir sur la montagne qu'il a amené dans la constellation de la nuée lorsque les 7 anges y sont apparus et qui lui a donné des instructions et des révélations très claires et sans équivoque. Et toute révélation de Dieu est une révélation de sa parole par le Saint-Esprit. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Levons-nous et prions. Père céleste, je te remercie de tout mon cœur pour ta sainte et précieuse parole. Seigneur, il y a un temps pour tout. Pour nos jours aussi, tu as un plan, tu as un programme. Ô Dieu, insère-nous tous dans ce programme, dans ce plan. Place-nous là où tu veux que nous soyons. Seigneur bien-aimé, nous aspirons à tout exécuter seulement selon ta parole, selon ta volonté, selon ton ordre. Dirige-nous toujours par ton esprit. Donne-nous les instructions nécessaires au Seigneur. Ô Dieu, nous voulons atteindre le but. Ne pas penser en nous-mêmes que tout ira bien et penser que nous sommes bénis et nous glorifier. Non, pas comme nous nous voyons, mais comme toi tu nous vois. Seigneur, comment suis-je? Comment sommes-nous tous devant toi? Ô Sauveur bien-aimé, Fais de nous des hommes qui marchent dans tes voies, dans le cœur desquels ont été, dans le cœur desquels tu as produit une transformation, un changement, dont l'âme a été sauvée, qui ont reçu de Dieu une vie nouvelle, qui se soumettent avec respect à toi et à ta parole. Seigneur bien-aimé, je voudrais être trouvé en accord à 100% avec ton programme, dans ton royaume, avec ton œuvre, avec ton église. Sauveur, nous te prions ensemble, fais que nous y parvenions à cause de ta parole, celle que nous avons entendue ce soir. Donne-nous un cœur qui soit ainsi, afin que nous puissions atteindre le but. Ô Sauveur bien-aimé, comme tu es fidèle, comme tu es merveilleux, la fin sera couronnée. Seigneur, fais que je sois là. Je veux en faire partie. Quand tu ramèneras les tiens à la maison, Seigneur, Sauveur fidèle, sauve les perdus, guéris les malades, délivre les enchaînés, éclaire ton peuple. Et révèle-nous ta parole et ta volonté. Seigneur, nous te glorifions et proclamons ta victoire, la victoire de Golgotha. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à toi la gloire et la louange pour tout. Alléluia. Amen.